Musicien breton de Casite des Tirs, empruntent les routes orientales par goût de l'aventure, tout en restant fidèles à leur héritage. Leur musique s'insinue, telle une langue originelle, tout en modalités, microtonalités, gammes anciennes et influences. Elle se mélange et résonne, d'ici à là-bas, une véritable machine à danser. Le groupe Casute des Tirs est composé de Gabi à la trompette, de Jean à l'accordéon, de Yves-Marie aux percussions et de Maël au canoun. Nous y retrouvons également des chanteurs, en la présence d'Éric et de Russen. Alors, en compagnie de Gabriel, Gabi Cardoncuf, du groupe Casute des Tirs. Donc, bonsoir à toi, Gabi. Première question que l'on souhaite te poser pour Alternant FM, quel est ton ressenti et quelles émotions te traversent après t'être produit, vous être produit cet après-midi sur la scène guernique des Charrues?
Alors, écoute, je vais être franc, comment dire, il y a eu un vent, il y a une orientation de la scène, et puis un vent contraire qui nous a amené énormément de pollution sonore. Donc on a eu c'était très très inconfortable. Voilà, donc ça, c'est des choses qui arrivent. Puis je pense que dans l'orientation des scènes, ils ont un peu c'est un peu décevant parce que si tu veux, pour la musique qu'on fait, il faut quand même une certaine faut que les gens puissent se mettre dedans. Voilà, donc c'est un peu gêné quoi, tu vois. Parce que le volume sonore et la musique, c'est deux choses différentes. Évidemment, enfin, c'est deux choses. Le volume, c'est important dans la musique. Mais ce qui est important, c'est la nuance. Ben oui. Donc là, il n'y avait pas de nuance possible parce qu'il y avait une battle. C'est comme la puissance sonore des autres scènes faisait qu'à écraser le... Et donc, si tu n'arrives pas avec, disons, la même esthétique, tu peux pas lutter.
Comment faire? Quel est le conseil qu'on pourrait donner, par exemple, peut-être aux régisseurs des charrues, aux organisateurs, pour éviter cette pollution-là? Est-ce que tu crois qu'il y a des solutions dans le métier, un peu, pour contrer ce genre de phénomène?
Bah oui, il doit y en avoir, mais alors ça, c'est pas mon rayon. Hein. Mais c'est sûr que voilà, c'est beaucoup de monde rassemblé dans un endroit confiné. Et donc, mais c'est à l'image aussi de la planète. Hein. Tu sais, les plus forts au niveau puissance sonore écrasent un peu le système. Oh, il n'y a pas que ça, heureusement, parce que tu vois, j'ai écouté l'orchestre symphonique avec Jane Birkin. C'était super, tu vois, franchement. Bah, donc, voilà, il n'y a pas que ça. On peut aussi. Mais bon. Voilà, nous on a eu cette enfin, ça va pas nous gâcher la vie, hein, rassure-toi. Non, c'est juste des conditions qui étaient un peu difficiles, quoi.
Bon, effectivement, on avait aussi des conditions climatiques. Il y avait un petit peu de vent et un petit peu de crachin aussi aujourd'hui. Mais les gens étaient quand même présents. Hein, il y avait quand même. Vous avez réussi à créer une ambiance sur la scène guernique. C'était une première, la scène guernique avec Casute des Tirs. Bon, toi, à titre personnel,
on l'a déjà fait à Troyes. À Troyes et Casute des Tirs. Puis moi, je suis vraiment un habitué des vieilles charrues aussi. Hein. Ça fait, je ne sais plus, peut-être la 13e ou 14e fois que j'y joue. Alors, tu vois. Donc, j'ai joué sur toutes les. Et puis, sur la première édition.
Donc, dès la première édition, tu étais présent.
Ouais, bah oui, je connais. Bah, je faisais partie des pires à l'époque. Donc on était le groupe, on était le groupe vedette de la première édition, qui s'appelait pas encore les Vieilles Charrues, mais qui était à Landelot, quoi. C'était pas au même endroit. Donc non, je connais bien ici. C'est vraiment. Et puis j'aime bien l'équipe. Hein. Mais je pense qu'eux-mêmes sont dépassés par le, d'une certaine façon, par le gigantisme. Donc.
C'est vrai que tu as connu beaucoup d'évolutions du coup entre la première édition et celle-là. Aujourd'hui, le festival a une dimension déjà en termes de superficie, une dimension géographique qui est beaucoup plus large, beaucoup plus longue qu'à l'époque où ça s'est lancé.
Oui, mais le festival, c'est un média. Moi, j'aime bien les médias. On a parlé de ça tout à l'heure, la radio, les médias alternatifs en général, Internet aujourd'hui évidemment, les petites chaînes sur Internet. Voilà, donc ici on n'est pas dans l'alternative, on est dans le mainstream. Donc, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est venu de Bretagne. C'est l'histoire des festivals de Bretagne et c'est un aboutissement de quelque chose, quoi. Alors maintenant, ils ont mis les pieds, mais vraiment à fond dans la mondialisation, hein, sur le plan artistique, avec les conséquences bonnes et mauvaises. Mais il y en a des bonnes, hein, heureusement, quand même.
Alors donc tu nous parlais effectivement d'une des premières éditions des Vieilles Charrues sur lesquelles tu as commencé. On te propose de revenir sur les dernières créations, notamment celle de 2017. On va revenir sur la dernière création de Casu des Tirs, le second album Georgiouna. Je ne sais pas si je prononce bien déjà.
Oui, c'est ça, c'est Georgiouna. C'est-à-dire Georgiouna, c'est un rythme. C'est un rythme à 10 temps. Ouais, tu vois, c'est comme les doigts de la main. C'est-à-dire que tu prends le pouce, 1, 2, 3, 4, 5, et après tu mets ta main sur un miroir inversé, et 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant tu fais doum sur le pouce, doum, tac, 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 doum, doum, tac, tac, tu vois, ça donne ça. C'est un rythme un peu bizarre, et mais c'est un rythme très, 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 comment... il n'est pas boiteux, il est très harmonieux. Alors évidemment, nous, on est occidentaux, on est 1, 2, 3, 4, 5, ça arrive des fois, mais enfin, rare.
Ce qu'on peut préciser à nos auditrices et à nos auditeurs, c'est qu'on est sur un rythme qui est propre aux cultures musicales moyen-orientales et kurdes.
Alors, ce rythme Georgiouna, on le trouve... si ma mémoire est bonne, on le trouve quand même dans un espace où il y a à peu près 2 milliards d'êtres humains, quand même, quoi. Donc, c'est... ben oui. Ça veut dire qu'on n'est pas... tous les gens sur cette planète ne sont pas forcément dans un rythme binaire, dans cette logique-là. Ils entendent et ils sentent d'autres choses qui sont bien plus complexes. Et Georgiouna, c'est super, ça, c'est un rythme qu'on trouve dans le nord de l'Inde, en Afghanistan, en Iran, jusque dans les pays arabes, et puis chez les Turcs. Voilà, c'est pour ça que je dis à peu près 2 milliards, mais peut-être je peux me tromper, hein, à quelques millions près.
Est-ce que tu peux nous présenter Georgiouna? Alors tu nous as parlé un petit peu de la production musicale à l'instant, notamment avec le rythme à 10 temps, que tu nous as très très bien précisé. Sur le bout des doigts, c'est le cas de le dire. Est-ce que tu pourrais nous présenter l'album par rapport aux paroles et aux messages véhiculés, qu'ils soient en breton ou en kurde, notamment avec les paroles de Rusen?
Oui, alors, écoute, il y a justement la présence de Rusen Filistek, en fait, on a un parcours qui est un peu chaotique, hein, Casu des Tirs. On a commencé à 3, puis on a été avec Jean Floch, on a travaillé avec des musiciens palestiniens en 2007-2008 sur les frères Khoui, qui sont de Jordanie. Et puis après, moi j'avais été au Kurdistan dès le 2008, au Kurdistan d'Irak. J'étais invité là-bas. Et puis, on a continué de travailler comme ça avec ces orientations jusqu'à ce qu'on nous invite, le gouvernement autonome du Kurdistan d'Irak, nous invite pour un projet musical. Il nous dit, vous voulez faire une rencontre avec... J'ai dit, parfait, nous, j'ai déjà été. Je suis retourné là-bas, tout seul d'abord. Et puis, j'ai rencontré un chanteur, un jeune chanteur qui était réfugié. On a partagé une paillasse dans un appartement ensemble. J'ai écouté chanter, j'ai dit, mais dis donc, il chante bien lui. Il ne parlait pas du tout français à cette époque, très peu. Mais je lui avais dit, mais tu chantes très très bien. Et voilà. Et puis quand on s'est retrouvés par hasard en France, 3 ans après, et c'est lui qui chante sur l'album Georgiouna. Et après, lui, il a décidé d'aller faire The Voice. Donc il nous a quittés. Et donc j'ai dit, il faut qu'on trouve un chanteur pour reprendre ce répertoire. Et on a repris le même répertoire avec Rusen Filistek, qui lui alors est un Kurde du Nord, de Turquie, et qui fait ses études, qui est venu faire des études à Paris, à la Sorbonne. Et puis lui, il a apporté d'autres chansons, et maintenant on a tout. C'est-à-dire que Giorgiuna, on joue que quelques morceaux de Giorgiuna, maintenant sur scène. Le répertoire qu'on joue avec Ruchen, c'est un répertoire renouvelé encore, avec beaucoup, beaucoup de morceaux que lui a amené. Alors ce sont les morceaux des Dengbej, la tradition des Dengbej. Il y a aussi quelques compositions et tout ça. S'il y avait un message, parce que c'est ta question initiale quand même, pour moi, le message, c'est celui de, ouais, vraiment d'une histoire extraordinaire qui nous est arrivée à nous, de prendre un cap et de rencontrer les Kurdes, de rencontrer, mais vraiment, les Kurdes de Syrie, les Kurdes d'Irak, et on a aussi du répertoire des Kurdes d'Iran. Et pourtant, on est les Bretons. Et pour finir, la rencontre avec Ruchen et les Kurdes du Nord, de Turquie. Donc, c'est sûr que je suis très sensible à ces questions-là. Et puis, parce que c'est un peuple... c'est pas un projet comme ça. On s'est pas dit, non, tiens, on va aller dans un concept. C'est pas du tout ça. Hein. Voilà, c'est une suite d'événements qui ont fait qu'on a été d'abord invités, puis réinvités, puis qu'on nous a... voilà, on nous a tendu des perches. Et puis... Et donc, après, évidemment, on s'intéresse de près aux questions politiques, parce qu'on s'y confronte. Hein. Nous, on a été, pour te donner un exemple, on était le 19 juin 2014, on était à Erbil. Mais Daesh venait prendre Mossoul quelques jours avant. Donc, quand on allait jouer, faire nos concerts, on n'avait pas toujours les techniciens sur place, parce qu'ils étaient partis sur le front. Parce qu'il y avait, tu sais, la guerre aussi. Il y avait deux fronts. Il y avait le front de Mossoul et le front de Kirkouk, qui est en Irak, et que Daesh voulait prendre. Il voulait prendre Kirkouk parce que ce sont les plus grandes nappes pétrolières du nord de l'Irak. Donc, tu vois, on est dans la musique. Et puis tout d'un coup, hop, on se retrouve dans des questions qui nous dépassent un peu. Le message, c'est qu'on a tiré, c'est quand même que sur les guerres, sur la fragilité, la déstabilisation de cette partie du monde, pour nous, c'est quand même très très fort, quoi. Notre expérience, je crois qu'elle nous dépasse. Je pense que le public n'a pas conscience non plus, parce qu'il n'a pas les clés de lecture, déjà du Moyen-Orient, qu'il trouve compliqué. Et nous, alors qu'ils arrivons avec cette volonté très bretonne, en fait, de tisser un, enfin de tu sais, de comme une, de tracer une route. Alors les Chinois, ils font la route de la soie. Nous, qu'est-ce que tu dis, on a fait une espèce de route à nous, à quelques individus. Et je suis vachement content de ça, en fait. Tu vois. Mais ça, pour moi, ça a une grande valeur artistique pour moi. Enfin, disons un sens. Après, la valeur, c'est pas à moi de la déterminer, pardon. Mais un grand sens. Ça a du sens, quoi. C'est pas... Alors, après, nous, on n'est pas de parti pris. Hein. Moi, je suis pas... Pourtant, je connais bien les questions. Je connais bien les questions historiques et tout ça. J'ai vraiment... Je peux pas être de parti pris. Et d'ailleurs, Ruchen Filistek, avec qui on joue, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis de toutes les nationalités. Beaucoup d'amis turcs aussi. Il n'est pas... et pourtant, dans sa famille, parce que j'étais dans sa famille à Adana, et il y a beaucoup de Kurdes de son entourage, de ses oncles, de ses parents qui ont souffert énormément de la situation politique, bien sûr, entre la Turquie et les Kurdes. Tu n'as pas le droit de dire Kurdistan en Turquie. Tu peux avoir des très gros ennuis. Ah ouais, tu peux pas dire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, même des élus de grandes villes qui s'expriment en kurde s'exposent à terminer en prison. Donc c'est quand même des situations extrêmes, hein, tu vois. Les Kurdes tiennent beaucoup à leur culture et les Turcs sont très très sur la défensive et très nationalistes. Donc si tu veux, et comme ils sont nombreux les Kurdes. Et que voilà, c'est une question très 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 dure et très épineuse aujourd'hui, quoi. Alors nous, moi franchement, je suis pas. On a une compréhension de la situation, mais on...
c'est
permet d'avoir un avis, une visibilité en fait sur les conflits. Et quelque part, cette culture, c'est aussi une forme de message. C'est on en tire un constat et quelque part, on le présente aussi à travers la culture pour montrer aux gens ce que c'est, ce qui se passe là-bas, sans forcément prendre un parti, comme tu le dis.
Ouais, et puis tu sais, ils sont aussi, ils veulent défendre leur culture, mais les modernités les menacent. Tout le monde. Les modernités menacent tout le monde et menacent toutes les cultures. Les modernités ou la modernité, je ne sais pas, menacent toutes les cultures qui sont justement anciennes, qui sont liées à des peuples qui ont vécu à des qui se sont bien entendus d'ailleurs pendant des moments, mais à partir du moment où les logiques d'État, de construction, de frontières, ça fait partie des premières arrivées de la modernité, à partir du moment que c'est arrivé là, ça a foutu la merde. Tu vois, et aujourd'hui on y est encore. Et je crains beaucoup pour que leur culture, mais c'est vrai pour les Turcs. Enfin, c'est toujours le pot de fer contre le pot de terre, quoi. Donc ça, c'est très très dur. Hein. C'est très dur. Mais j'en ai pas de solution. Moi, j'ai pas de solution contre ça. On peut s'enfermer dans une résistance, très dure. Et c'est ce que font certains militants. Je peux le comprendre. Mais nous, évidemment, dans notre position, nous, on ne peut pas prendre parti. Même si nos sentiments, nos sympathies, évidemment, vont vers les Kurdes. Ils ont le droit à leur culture. Mais on ne va pas expliquer ça aux Turcs, je ne sais pas.
Alors, en lien avec cette question, on a repéré durant votre concert que sur la fin, il y a une chanson qui a été reprise en chœur par tous les musiciens sur un chant kurde. Pour le coup, ça vous a amené en tant qu'artiste à apprendre un petit peu la langue kurde. Pour le coup, quelques mots.
Oui, moi j'ai un peu appris le sorani, pas le kurmanji. Mais là, on chante en kurmanji, ouais. Ouais. Et alors voilà, mais tiens, justement, ça c'est une question qui pour moi est importante. Je trouve qu'on n'a pas assez de... Que cette famille de langues n'est pas suffisamment enseignée en France. On n'y a pas assez accès suffisamment. Alors ça génère des problèmes. C'est que ça génère des problèmes, y compris au niveau de la diplomatie. Parce que si on pouvait avoir des gens qui comprennent mieux la langue kurde, je pense qu'on aurait aussi une meilleure diplomatie vis-à-vis d'eux, meilleure compréhension. Et c'est vrai aussi vis-à-vis des Iraniens. C'est vrai aussi... Enfin, il y a des lignes, il y a des endroits par là où on ne va pas assez. On travaille trop avec des Saoudiens qui ont beaucoup d'argent.
À qui le dis-tu ?
Oui, moi je voulais savoir quel regard tu avais sur l'ouverture justement de la musique bretonne. Depuis plusieurs années au Charru, on se rend compte que les groupes bretons ont tendance à aller vers des musiques un peu plus orientales. Différents groupes, il y a un mouvement vraiment d'ouverture de la musique bretonne. Est-ce que ça va dans le sens de la protection de la culture que tu mentionnais tout à l'heure pour lutter un petit peu contre la modernité? Comment expliquer un peu cette ouverture aujourd'hui de la musique bretonne qui s'essaye à un peu avoir d'autres influences?
Alors, lutter contre la modernité, c'est un peu peine perdue de façon artistique, quoi, parce que c'est plutôt une histoire de comment tu traites avec, comment tu joues avec. Parce qu'aujourd'hui, la modernité nous sert quand même à apprendre une quantité insensée de morceaux par MP3 qu'on va chercher sur YouTube. Donc on est, nous aussi, dans cette culture complètement. Je pense que... en fait, tu sais, moi, je suis de la génération à peu près d'Éric Marchand. Je ne cache pas, on est des amis, on a travaillé longtemps. J'ai travaillé longtemps avec lui, hein, j'ai joué longtemps avec lui avant de prendre ma propre route. Et puis, on reste toujours des amis. On a participé à créer ces conditions qui font qu'aujourd'hui, il y a des jeunes musiciens qui sont des très grands maîtres et qui sont considérés par les orientaux comme des grands maîtres. Ça commence à arriver en Bretagne. C'est incroyable. Les Bretons ne le savent pas. Les Français ne le savent pas. Mais aujourd'hui, beaucoup de musiciens bretons sont considérés comme des grands maîtres par les orientaux. Et ça, c'est pour moi... Alors, bon, nous, on est vachement contents de ça. Et puis, évidemment, ils ont aussi une résonance vis-à-vis de leur père, PAIR, en Bretagne. Et ça conforte, tant qu'on peut le faire, parce que cette idée de voyage incessant par avion pour aller visiter les cultures des autres, il y a un moment où on va clore le banc, hein, on va rentrer sur d'autres modes, quoi. Mais je pense qu'on aura suffisamment instillé d'envie, de goût et de désir de comprendre profondément les autres cultures, et que ça va, on va pousser cette donnée le plus loin possible, quoi. Mais c'est pas contre la modernité pour le coup. Je pense les modernités, ce sont des machines absolument infernales dont il est. Tu peux pas dire qu'il y ait un certain nombre de personnes qui aient des intentions particulières derrière, quoi. Bon, c'est sûr que nous, musiciens, on a des intentions, assez pures en définitive, parce que on est. Pas assez pur, ouais. Après, quand on crée des choses ensemble, il faut aussi parler sonnant et trébuchant. Hein. Il faut aussi créer des conditions. C'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile. J'ai travaillé beaucoup avec les musiciens orientaux et il faut bien se cramponner. Bah oui, c'est la vérité aussi. Hein. Et donc, on apprend aussi comme ça. On apprend à défendre la valeur de sa propre musique et à bien placer l'endroit où on met sa propre fierté. C'est-à-dire le plus discrètement possible et le plus intérieurement possible et le plus fortement ancré. Parce qu'on est dans une région quand même où, faute de fierté, on bombe le torse beaucoup en Bretagne. Et donc, je crois que c'est plus on se confronte au monde en général... nous on le fait de façon douce, on peut le faire aussi de façon violente, violente dans les rapports commerciaux par exemple, et ben plus on comprend qu'il faut se renforcer aussi dans le contact avec les autres. Je vais un peu loin peut-être là.
Libre parole à Gabriel.
Alors, c'est une question maintenant concernant les arrangements, une question technique par rapport aux arrangements musicaux. Et est-ce que, quand on partage deux cultures, alors tu disais que parfois les artistes moyen-orientaux étaient parfois durs à travailler, comme tu viens de le dire, parfois, dans les échanges, dans le travail collectif. Est-ce qu'au niveau des accords, on retrouve des similitudes quand même assez rapidement, au niveau des instrumentaux, techniquement parlant ? Alors toi, tu as la trompette, tu as la bombarde, par exemple, est-ce que...
Je vais d'abord parler de façon générale, si tu veux bien, puis après je répondrai de façon particulière pour mon cas. De façon générale, en fait, on a appris beaucoup de codes. On a appris la musique orientale. Pourquoi on l'a fait ? Parce qu'on avait besoin de leurs connaissances spécifiques pour définir des choses qu'on ne savait pas définir dans notre propre musique. Par exemple, c'est les gammes, les fameuses gammes bretonnes dont aucun, érudit français ne pouvait nous dire ça, ce sont des français ou bretons, pouvaient nous dire ce sont des gammes de tel type. Il a fallu qu'on apprenne. Donc il a fallu un sacré travail de recherche, de connaissance, un travail presque d'ethnomusicologie comparé à notre initiative. Sans avoir l'aval des gens qui étaient autorisés à parler sur la question. Et justement, Marchand, il est formidable pour ça, parce que lui, il a fait les ponts avec les pontes, les grands pontes, et il a fait reconnaître le boulot qu'on a fait en Bretagne. Et donc aujourd'hui, on définit certaines gammes de Bretagne, des gammes qui existent beaucoup justement dans la région ici, hein, de carré, hein. Et on les définit avec des termes quelquefois qui sont des termes orientaux.
C'est une évolution du paradigme.
Oui, mais écoute, c'est comme ça. Alors on arrive à définir. Aujourd'hui, moi, je regrette, mais quand je vais, j'habite au bord de la mer. Quand je sors telle algue, comme on dit, c'est kombu. On me dit c'est du kombu. C'est un nom japonais, mais il y avait un nom breton pour dire kombu. D'ailleurs, je le connais pas. mais il faut que je me pose la question. Mais le mot, il prend le pouvoir de celui qui a le regard. Donc c'est très important de savoir définir ce qu'on fait. Ah, c'est une partie un peu intellectuelle sur laquelle Eric est responsable. C'est lui le grand, le boss. C'est lui le boss. Mais c'est lui qui a pris le plus à cœur ces questions-là. Mais du coup, il nous aide. Il nous aide. Il aide tout le monde, toute une génération, toute une région. Et aujourd'hui, plus que la Bretagne. Et parce qu'il est en train d'aider l'Occitanie. Et il est en train d'aider tout le Massif central, toute la région centre, à définir aussi, d'une certaine façon, leur propre musique, leur propre microtonalité. Donc c'est un très, très grand bonhomme de l'ethnologie contemporaine et de l'enseignement en France. Voilà, ça c'est pour mon collègue, c'est une généralité. Alors, la façon de travailler, ben, évidemment, comment qu'on a appris les codes orientaux, eh ben, on connaît ces gammes, donc on peut apprendre les morceaux. Et puis nous, on peut aussi traduire en termes de nous, on a notre morceau de la région de Carhaix qu'on chante comme ceci, avec cette microtonalité là. C'est pas du rast, mais c'est un peu comme, etc. On arrive à communiquer avec eux et leur faire jouer nos musiques. Donc ça, c'est un outil, tu vois. L'outil, c'est donc l'outil de connaissance. Après, il y a d'autres outils qui sont les outils techniques. Alors, ça, c'est le canoun, parce qu'on a adopté le canoun.
Avec Maëlle.
Voilà, avec Maëlle Vallet, qui est harpiste à la base. Et Maëlle, elle s'est tournée vers le canoun. Le canoun, ça veut dire la loi en arabe. La loi, parce que c'est un instrument qui est extrêmement divisé. Il a des divisions très, très fines du ton, en plusieurs, jusqu'à 12 division dans un ton. C'est très très fin, avec des mandales, avec des systèmes de petites clés. Donc en fait, avec le canoun, on se rend compte aussi qu'on peut jouer toute la musique bretonne, qu'on ne pouvait pas avec les autres instruments, à part les instruments fretless, c'est-à-dire le violon fretless, mais qui supposait que les gens entendent. Mais comme il n'y a pas de violonistes qui entendent vraiment, qui entendaient précisément la musique bretonne telle qu'elle était chantée, le canoun met tout le monde d'accord.
C'était une découverte faite par Mel au moment de son utilisation, ou d'autres artistes aussi utilisent le canoun dans d'autres groupes.
Alors, Eric savait ça, que le canoun était... Donc il a poussé, il a dit, oh, c'est dommage, il n'y a personne qui fait de canoun. Et bon, moi je connaissais Maëlle, je lui ai dit... Si tu fais le canoun, ah, c'est super, faut aller vers là. Et elle a commencé avec un enseignement égyptien, et puis après elle est passée à l'enseignement comment turc, qui est beaucoup plus complet. Et donc aujourd'hui, ben elle, c'est dommage, elle n'est pas là pour en parler, mais c'est vraiment très précis, quoi. Alors. Et puis pour finir, alors il y a l'accordéon aussi, l'accordéon de Jean Le Floch, qui lui, il a pris l'accordéon tel qu'il était joué par les Libanais à la fin des années 60, jusqu'aux années 70. Mais les Libanais ont abandonné la lutherie de l'accordéon au profit du synthétiseur. C'était beaucoup plus pratique. Mais du coup, ils ont eu une perte. La perte d'un instrument acoustique dans leur musique. Mais Jean, lui, il était obstiné, il a repris le travail. Et il a, d'ailleurs, avec l'aide d'un grand musicien syrien qui s'appelle Fawaz Bakker, qui vient régulièrement enseigner en Bretagne. Et puis voilà, et puis il a tâtonné et il met au point un instrument qui est super, qui peut jouer toutes ces cultures, qui peut jouer toutes les microtonalités. Alors après, on a les percussions. Bon, là, le problème se pose pas. La voix, eh ben, quelqu'un comme Eric Mento, il a travaillé avec des grands chanteurs éthiopiens où là aussi, on pratique les gammes qui sont très différentes des gammes occidentales. Donc, il a appris. Et en ce qui me concerne, ben, j'ai la trompette de... moi, j'ai pris contact, bien avant qu'Ibrahim Malouf soit connu, j'ai pris contact avec son papa. Et c'est son papa qui m'a dit, ah ben vous pouvez, oui, alors c'est moi qui ai inventé, il m'avait expliqué tout ça. Et j'ai été chercher le prototype chez Selmer. Ils m'ont laissé le prototype pendant un an. J'ai appris, donc il y a déjà 12 ans de ça, ou 12 ans, qu'est-ce que je dis ? Plus que ça, mettons 14 ans, ouais. Et donc, mais Nassim Malouf, le père d'Ibrahim, m'a dit « Attention, mon fils va arriver, il va casser la baraque ». Et c'est vrai. Donc je reconnais quand même l'antériorité et évidemment le très grand talent d'Ibrahim.
On retrouve régulièrement Vieille Charrue également, et qu'on avait retrouvé, je crois, il y a 2 ans, en collaboration avec Youn Kam, il me semble, sur scène au Charrue.
Alors Youn, après, justement, bah, il a suivi d'abord... je le dis avec modestie, d'abord mon chemin, puis après il a eu la chance d'être embauché chez Ibrahim, donc maintenant il va son chemin à lui, il y a sans problème quoi. Mais ça fait partie des choses qui se passent comme ça.
C'est acculturation.
Et où Eric a toujours un rôle, et toujours derrière, où il est toujours quelque part, il a toujours incité.
Tous les chemins mènent à Eric. Certaine manière.
Tous les chemins mènent à lui, je dirais pas ça, mais dans ce domaine-là, tous les chemins, un moment passe par lui. Oui, c'est vraiment un type majeur. Alors après, j'ai aussi la bombarde dont tu as parlé, et la bombarde, elle est microtonale de toute façon, et puis j'apprends aussi la zurna. Donc ce soir, enfin cet après-midi, j'ai pas joué la bombarde, comme je fais d'habitude, j'ai joué la zurna. C'est-à-dire qu'il est l'équivalent turc.
L'instrument que tu utilises à la fin.
Oui, c'est la zurna, c'est pas la bombarde. Et je fais les deux.
Dans ton apprentissage aussi, de t'ouvrir à d'autres instruments comme ça.
Oui, voilà, qui est un instrument très différent en fait. Bon, mais je ne vais pas m'étendre. Parce que... Alors là, c'est pratiqué par... Alors les sonneurs de zurna, c'est un monde. Mais moi, j'adore ce monde-là parce que c'est un monde un peu ésotérique. Mais le monde des sonneurs en Bretagne était ésotérique aussi, hein. Et aujourd'hui, moi, j'apprends beaucoup, beaucoup. Et il y a un jeune musicien formidable qui est aussi un très grand joueur de zurna breton, qui s'appelle Sylvain Barou.
Ah, Sylvain Barou, que l'on a interviewé il y a deux ans, sur les ondes d'Alternante FM, effectivement.
Voilà. Et donc, je parlais de jeunes bretons qui étaient reconnus par les maîtres orientaux. Et ben, Sylvain en fait partie en tant que flûtiste, en tant que joueur de doudouk et en tant que joueur de zurna.
On sent à travers toutes les explications qui sont données une passion musicale encore très forte. Ce qui m'amène à demander tout simplement quels sont les futurs projets sur lesquels tu peux éventuellement travailler. Est-ce qu'il y a un album? Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres collaborations que celles actuellement avec le groupe? Qu'est-ce qu'on peut attendre pour peut-être l'année prochaine ou les 2 années à venir?
Alors, si tu veux, là je vais répondre à titre personnel par contre. En fait, je me rends compte que tout ce travail est un travail très très particulier, assez unique et tout ça. Et pardon, je vais éteindre mon téléphone, chose que j'aurais dû faire depuis longtemps.
Ça sera coupé au montage.
Ça sera coupé au montage. Allez, hop, voilà, c'est fait. Et en fait, oui, en fait, c'est quand on va dans des pratiques qui sont un peu rares comme ça, l'air se raréfie. L'air se raréfie. Donc je peux pas dire que j'ai une carrière brillante. Je suis tellement exigeant et tellement passionné par ce que j'ai fait que je me suis retrouvé. Là, je suis sur un petit chemin qui est commun entre un Toulcar ou un Gonogène de Bretagne et puis une espèce de petit chemin dans les routes du Kurdistan. Et on gagne pas sa vie avec ça. Donc aujourd'hui, j'ai plus de plaisir à voir les autres, et puis à partager. J'essaye de garder quand même une idée de forte sur le plan esthétique et puis de transmettre aussi, d'enseigner. Et puis, je fais du cinéma documentaire. Voilà, où je parle de la musique. Et donc ça, c'est une façon aussi de passer au-dessus des questions de conflit, là, justement, dont j'ai parlé. Parce que c'est tellement, tellement gros comme affaire que le cinéma documentaire, le cinéma en général, est un outil que j'ai trouvé vachement intéressant pour aborder ça. Ouais. Donc, alors, tu vois, je te réponds, ma prochaine, comment dire, prolongement artistique de ce travail, ce sera un film. Un film documentaire. Oui, ben voilà, c'est une façon de prolonger une passion artistique, quoi.
Et on va conclure cette interview autour de la création du label Irustica, si je prononce bien, créé en 2007, donc il y a maintenant 12 ans. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots, un petit peu, les origines de la création de ce label et les perspectives?
Alors justement, c'était à la sortie de la crise des intermittents, nous on s'est dit il faut vraiment qu'on se structure, puis qu'on ait, tant qu'à y être, avoir un label. Alors je venais d'habiter dans le Trégor, moi, je venais d'arriver dans le Trégor, donc je vais pas faire ça tout seul, parce qu'un label pour me produire moi, c'est pas. Donc j'ai appelé Jean-Luc Thomas. Voilà, puis j'ai dit, puis Jean-Luc a fait beaucoup, mais non, c'est lui qui a fait le plus d'albums sous ce label. Et il va en faire un. Le prochain, c'est un album qui est. Donc le dernier qu'il a fait, c'est Carlaveo, avec des musiciens brésiliens. Et là, avec certains autres de ces musiciens, plus d'autres musiciens, il fait un nouvel album qui va s'appeler Officina Itinerante. Moi, je fais de la production en plus maintenant. Donc c'est ça qui m'occupe aussi. Je produis le prochain album de Fawaz Baker, dont j'ai parlé, musicien syrien. Et cet album qui va s'appeler Alep Brest. Donc c'est un musicien qui, lui, a vécu à Alep. Hein, voilà. Et qui est venu enseigner à Brest. Et qui est, voilà, Alep, Brest. Il a suivi le chemin, cette route-là. Et donc, on se concerne le label. On va être au 14e disque bientôt. Mais principalement donc des disques de Jean-Luc et un petit peu des miens. Et puis aussi maintenant à l'arrivée du disque de Fawaz. Et j'espère qu'on va ouvrir encore le label. Bon, tant qu'on peut, c'est pas évident, hein, parce que aujourd'hui, sur nos musiques, on rame, hein, quand même. On rame. Si on arrive à vendre 2010, c'est bien. On s'en sort, mais il faut vendre 2000, quoi. Il faut vendre 1500-2000, hein. Autrement c'est raide, quoi. Autrement, où on mange sa quine, je sais pas comment on dit.
En tout cas, on est là sur les ondes d'Alternante FM pour faire de la promo à la culture locale et internationale. Dernière question, Gaby, concernant la signification de Casus des Tirs. Donc on a fait nos recherches, Tir est une ville libanaise, si nous ne disons pas de bêtises, et Casut, pour le coup, causer. Alors on va laisser Gaby répondre.
Bon, mais c'est bien, ça fait travailler les esprits. En fait, Casus des Tirs, c'est un. Quand j'ai proposé à mes collègues ce nom-là, je leur ai dit, mais attendez, il y a une phrase en roumain qui dit Casus din tir. Et moi, je l'ai entendu une fois, et puis j'ai demandé à. Je parle un petit peu roumain. Donc je demande à un collègue, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Casus din tir. Ah, casus din tir. Din cosa din instrument ca casus din tir. Ah, mais de che ? Tir. Transport international routier. Donc tomber du camion. Ça veut dire tomber du camion chez les tziganes. Donc casus, je ne voulais pas dévoiler le casus din tir qui est un peu un code. Chez les tziganes, on va dire, qui seraient dans le trafic. Mais casus din tir, ils savent ce que ça veut dire. Et alors, j'ai dit, ah, casus des tirs, et on va rajouter un Y, et comme ça, on va épaissir encore le mystère. On va brouiller les cartes. C'est réussi, non? Voilà.
En tout cas, on aura réussi à décoder grâce aux explications de Gaby. Merci Gaby Cardoncuf et à très bientôt sur les ondes d'Alternante FM. Merci pour cette belle interview. Bonne continuation.
Merci à vous. Merci à vous et bravo à Alternante.
Bravo à Casus des Tirs.